Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Bonsoir Patrick, ça va ?
Nous sommes très très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir pour cette soirée de lancement de la troisième édition des Rencontres des Pensées de l'écologie. Alors nous sommes d'autant plus heureux de voir cet événement se concrétiser dans un contexte politique pour le moins fluctuant. Mais voilà, donc soirée de lancement que nous avons souhaité ouverte à toutes et à tous, à l'instar de quelques autres événements que Aurora vous présentera juste après moi, et que nous organiserons ici, dans la salle des écuries Saint-Hugues, avec quelques conférences décentralisées, puisque vous le savez, les tables rondes et les ateliers auront lieu pour l'essentiel à l'ENSAM. L'entrée se fera, je réponds à des petites questions, de l'autre côté de l'abbaye, par l'entrée de l'ENSAM, donc rue Porte de Paris. Donc des conférences, on aura le droit aussi à deux concerts, dont un ce soir avec un quatuor de saxophonistes talentueux qui nous viennent d'Ukraine, et une observation du ciel étoilé samedi soir au parc abbatial. On a aussi le plaisir de recevoir vendredi soir Vincent Verza, youtubeur militant qui filme les mobilisations militantes depuis environ 10 ans maintenant sur sa chaîne YouTube Partager c'est sympa. Et il viendra donc nous présenter son premier documentaire, Le vivant qui se défend, en avant-première, vendredi soir au cinéma. Vous êtes toutes et tous conviés à cette soirée débat avec lui, vendredi à 20h45. Donc pendant à peu près 3 jours, jusqu'à dimanche après-midi, nous allons accueillir et recevoir ici des chercheurs, des intellectuels, des militants, des activistes, et puis des responsables politiques, nationaux, des élus aussi, autour d'une trentaine de tables rondes. Vous avez pu, pour les plus chanceux, découvrir notre programme. On le distribuera plus largement demain. On ne fait pas l'épingle, mais c'est qu'on n'avait pas prévu que vous soyez si nombreux, en fait. Donc, mais vous pouvez quand même le consulter aussi en ligne sur notre site internet. Donc il reste quelques places. Vous pourrez passer demain. On accueillera encore quelques inscriptions demain matin sur quelques tables rondes, notamment des tables rondes pour samedi. Voilà, donc vous viendrez vous ajouter, comme je le disais, au plus de 600 personnes qui se sont inscrites à notre événement. Donc voilà, c'est déjà un beau succès pour ces rencontres. Alors les Rencontres des Pensées de l'écologie, c'est donc la troisième édition. Elles sont conçues comme un espace de dialogue, de regard croisé sur l'écologie. On va en avoir un bel exemple ce soir. Donc c'est notre marque de fabrique face à la dispersion, au cloisonnement, à l'hystérisation aussi du débat public. On souhaite marquer un temps de pause, de réflexion. Donc on va réfléchir tous ensemble, à voilà, tous les niveaux possibles, pour faire une petite pause à la fois pour se nourrir intellectuellement, mais aussi pour mutualiser des moyens pour agir chacun dans nos territoires, pour construire ensemble cette écologie qui nous rassemble. C'est vraiment notre souhait à toutes et à tous. Et pour redonner envie de changer la vie, beau thème de cette première table ronde. Mais avant de vous laisser la parole, je tends mon micro à Aurora de la Compagnie du Phare, qui nous accueille dans cet espace de foisonnement pendant ces 3 jours. Merci à vous aussi.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci à l'instant d'après et pour la confiance renouvelée. C'est la deuxième année qu'on participe à cette édition pour la création de cet espace de convivialité et sur le soutien cette année technique, donc la captation audio et vidéo des conférences. Merci à toute l'équipe technique qui nous a rejoint cette année. Je suis hyper heureuse d'accueillir tout ce beau monde. Voilà, nous, le Phare, voilà, on est une compagnie de spectacle vivant. Donc, on est plutôt voilà, des artistes, des techniciens du milieu de la culture. On est là aussi pour dire que artistes et techniciens du milieu de la culture et de tout le reste, on a aussi des engagements, des valeurs, et on a envie d'essayer de faire bouger les lignes. Surtout là en ce moment, parce que vraiment on ne comprend plus rien sur ce qui se passe, on ne sait plus quel gouvernement on a, si ça va changer encore. Voilà, c'est un vrai feuilleton, donc je pense qu'on a des très bons, des futurs artistes, je pense aussi, dans notre gouvernement actuel. Donc je ne vais pas être très longue parce que je vais laisser la place à nos chers invités ce soir, mais donc n'hésitez pas à venir discuter aussi avec nous, à échanger des idées. On a notre crieur public du ministère des Rapports humains, ça c'est spécial chez nous, qui est là pour vous donner la parole, recueillir vos pensées. Et voilà, on essaye de faire simple et de rester populaire pour que tout le monde comprenne. Donc la buvette cette année s'appelle Glou Glou, hein. Donc si vous avez faim, c'est à l'endroit qui s'appelle Miam Miam, et voilà, dehors il y a un endroit qui s'écrit Popo, je pense que vous comprenez. Voilà, comme quoi on peut être aussi accessible et populaire quand on est de gauche, parce qu'il paraît que des fois on peut être élitiste ou autre. Donc voilà, nous, notre but c'est que tout le monde comprenne, qu'on soit un lieu d'accueil et d'asile. Et donc on est très heureux aussi à la fin de cette conférence d'avoir une dégustation de vin par notre vigneron favori Julien Guillot, qui est très très engagé et militant autour de la bio et de la biodynamie en général. Et après donc d'avoir un merveilleux concert de 4 saxophonistes ukrainiens. Voilà, on est très touchés de les accueillir ici ce soir. Donc n'hésitez pas à rester à la fin de la conférence et puis à revenir encore. On est là jusqu'à dimanche, voilà, pour célébrer avec vous tout ça, toutes ces pensées, toutes ces réflexions, toutes ces énergies, pour essayer d'imaginer autre chose, de bouger les lignes, de foutre le bordel, on peut essayer aussi. Voilà, merci. Je vous laisse maintenant la parole. Merci encore.
Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette séquence d'ouverture des rencontres des pensées de l'écologie de Cluny. Comme le rappelait Aurélie, ces rencontres sont organisées par un collectif d'acteurs, fondations, associations du Clunissois et d'ailleurs. Je suis Anne-Caroline Jombeau et je fais partie de l'une de ces associations partenaires, l'Auberge de la Croix-Blanche à Châteauneuf, dans le Brionnais voisin, en Saône-et-Loire. C'est un ancien relais de poste du XVIIIe siècle en cours de rénovation qui va devenir un lieu de convivialité et de culture et accueillir un incubateur de territoire au service des porteurs de projets de la région. Dans le cadre de ce partenariat avec les rencontres de Cluny, nous avons invité Patrick Boucheron, éminent historien, professeur du Collège de France, qui nous a fait l'amitié de répondre présent. Donc merci à lui, merci Patrick. Merci aussi bien sûr aux deux autres intervenantes qui ne sont pas encore à nos côtés mais qui vont bientôt nous rejoindre. Sheila Scheck, qui est chercheuse maîtresse de conférences en politique internationale à l'Institut de l'Université de Londres à Paris et spécialiste des écologies post- et décoloniales. Et Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France et qui a eu beaucoup, beaucoup de responsabilités au sein des partis Verts et Écologie, Europe Écologie Les Verts. Et nous vous avons sollicité tous les trois autour d'une thématique que les rencontres de Cluny ont souhaité volontairement optimiste, positive et même joyeuse, puisqu'il s'agit de donner envie de changer la vie et transformer le monde. Donc il y a à la fois du Rimbaud et du Marx dans cet intitulé. Il y a surtout un formidable pied de nez à l'hypermorosité ambiante et aux passions tristes qui nous accablent. Donc voilà, inquiétude en tout genre, peur, mélancolie, lassitude, profonde lassitude, je pense pour beaucoup, repli, vérité relative, dans un contexte de guerre, d'inégalités croissantes, de bascule vers des régimes autoritaires extrémistes et bien sûr de crise écologique. Qui plus est, voilà, dans un moment politique en France de crise politique voire institutionnelle qui est assez insécurisant. Voilà. Mais donc voilà, avec tout ça, il s'agit de trouver les voies pour changer la vie, sortir de l'impuissance, retrouver une capacité d'agir, une envie de transformation, de projection dans un avenir. Voilà, désirable, voilà, osons le dire. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment sortir de nos solitudes, créer des alliances, mettre fin aussi aux discours de haine, de peur, être à l'écoute de la société, identifier des révolutions minuscules, des signaux faibles, des actions, des processus vivants, des coalitions qui indiquent une direction. Bref, trouver un chemin, une mise en mouvement. Je crois que Patrick Boucheron, vous utilisez souvent cette expression à propos de l'histoire. Trouver un chemin dans ce grand bazar mortifère, faire en sorte que l'écologie soit un élément fédérateur, producteur d'espoir. Voilà. Donc ensemble, essayons de chercher des chemins pour avoir envie de changer la vie et transformer le monde. Avec vous trois et trois entrées différentes, la recherche et la pensée de l'écologie post- et décoloniale, l'engagement social, solidaire et l'écologie politique avec Cécile Duflo et l'histoire avec Patrick Boucheron, que je ne présenterai pas, si ce n'est à travers une actualité éditoriale qui est quand même importante, puisque demain, le 10 octobre, sort une édition enrichie d'une histoire mondiale de la France qui était initialement sortie paru en 2017, que vous avez coordonné. Un ouvrage qui propose de déplacer, de dépayser et d'élargir l'histoire de la France en la regardant au prisme du monde. Et dans cette nouvelle édition inclut de nouvelles dates qui vont jusqu'en 2024, qui est quand même une année qui a été extrêmement riche et qui est commentée par l'historienne Michèle Perrault, puisqu'en 2024, il y a eu trois moments importants lors desquels les yeux du monde se sont braqués sur la France lors des Jeux Olympiques, et vous avez participé aux cérémonies aussi qui ont accompagné ces Jeux Olympiques, le procès des viols de Mazan et la réouverture de Notre-Dame. Mais je vais tout de suite, Patrick, vous laissez la parole. Alors non, avant, il faut que je vous rappelle simplement le format un peu de... Parce qu'il est assis, il est un petit peu particulier. Je vais d'abord donner la parole à Patrick Boucheron pour un propos libre sur cette thématique d'à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, j'inviterai effectivement Sheila Cheikh et Cécile Duflo à nous rejoindre. Et voilà, il y aura une table ronde qui durera un peu plus d'une heure. J'espère que nous aurons au moins peut-être une demi-heure pour accueillir vos réponses, vos questions, commentaires. Sachant que je dois préciser que nos trois intervenants doivent malheureusement ne peuvent pas jouer les prolongations et doivent nous quitter dès la fin de la rencontre. Donc c'est pour ça que je vous invite à profiter ce temps de questions-réponses pour échanger avec eux. Mais tout de suite, je donne la parole à Patrick Boucheron.
C'est parce que je vais au rendez-vous de l'histoire de Blois, en fait. Oui, c'est parce que je vais au rendez-vous de l'histoire de Blois que je dois partir. Et c'est pas tout près, Blois. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, vous voir ainsi réunis, nombreuses, nombreux et divers. Ça m'enchante. Ça m'engage, mais aussi ça m'oblige. Alors, d'abord, ça m'oblige à la brièveté, parce que j'ai très envie qu'on commence à discuter avec Sheila Cheikh et Cécile Duflo. Mais puisque tu me demandes de dire quelques mots, je le ferai bien volontiers pour dire combien je suis heureux d'être là, et pas simplement parce que médiéviste dans le civil, mon petit cœur de midinette ne peut que battre très fort, évidemment, quand on est à Cluny, et parce que aussi j'ai travaillé sur Georges Duby et que ce sont ces terres, mais aussi parce qu'on est effectivement dans un moment particulier où on doit se mettre en mouvement. As-tu dit, oui, peut-être, il y a une autre expression qui m'enchante davantage, c'est demeurer en mouvement. Quand on y songe, quand on écoute un peu ce que dit de nous la langue qui en sait plus que nous, peut-être, sur nos devenirs possibles, cette expression étrange, demeurer en mouvement, dit à la fois l'obligation et l'émotion de l'appartenance, le fait qu'on n'a pas à rougir ni à s'excuser d'avoir des apparentements, des attachements, des chansons qu'on aime chanter, comme le dit Achille Mbembe, avec plus d'entrain, parce que ce sont les chansons de notre pays, et puis en même temps être intensément ici et rêver d'ailleurs, et peut-être effectivement, comme tu le dis, imaginer des vies meilleures. C'est ça au fond. Au fond, je crois qu'il doit nous réunir et nous engager, c'est de tenter de se frayer un chemin au-delà de cette tenaille mortifère entre, disons, l'enracinement qui serait inévitablement pour les autres, pour les plus démunis, pour celles et ceux qui ne seront, voilà, qui sont condamnés au fond à rester là où ils sont, et puis le hors-sol d'intellectuels qui seraient heureux de parcourir le monde, qui auraient avec le monde un commerce doux et agréable, et ces deux attitudes seraient opposées justement pour rendre impossible toute capacité politique de demeurer en mouvement, c'est-à-dire de faire l'un et l'autre fondamentalement, de partir des expériences les plus concrètes, les plus communes, les plus simples, pour justement imaginer autre chose. C'est difficile aujourd'hui, pour toutes les raisons que vous avez déjà dit, et pourtant, il y a quelque chose qu'on appelle l'optimisme de méthode, qui me semble, quel que soit notre état émotionnel, s'imposer à nous, et qui part du principe que de toute façon, il ne sert à rien de désespérer, ou que plus exactement, si on désespère, si on commence à se laisser gagner par la haine de soi, alors qu'est-ce qu'on va gagner ? Sinon, effectivement, se souvenir que la haine de soi, elle est tellement mauvaise conseillère qu'on finit toujours par faire payer le peu de considération qu'on finit par avoir de nous-mêmes sur des plus faibles et des plus démunis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ce qu'on appelle, avec peut-être des guillemets que je voudrais de plus en plus soupçonneux, la bataille culturelle, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, et il ne faut pas non plus considérer que l'ennemi absolu, c'est l'entre-soi. On a le droit aussi, même si on ne s'en contente pas, de se rassembler pour ne pas être seul, pas encore une foule, mais quelques-uns, parfois les mêmes malheureusement, mais on travaille à le diversifier pour s'encourager. Parce que de toute façon, il est des périodes historiques, et peut-être sommes-nous en train de comprendre que celle qui s'ouvre, eh bien, sera de cette teneur malheureuse-là, où il faut s'organiser. Et où il faut s'organiser en se comptant. Voilà. Et en sachant sur qui on peut compter. Et sans s'en laisser compter. D'ailleurs, je n'ai jamais su comment on écrivait compter dans ne pas s'en laisser compter. Est-ce que c'est le compter numériquement ou compter narrativement ? Eh bien, les deux. Ce qui prouve effectivement qu'on ne doit pas non plus se laisser enfermer par une sorte de détestation comptable de nous-mêmes, on est trop faible, on est trop minoritaire. Si on fait le plein de la minorité, ça commence à faire quelque chose. Et de toute façon, cette minorité cessera de l'être à partir du moment où elle aura retrouvé l'allant narratif de raconter une histoire, d'autres histoires, de se rendre aimable, pas simplement j'en dirais un mot aussi, de gagner au fond des points dans l'art de la détestation, de se rendre aimable et de construire des futurs désirables. Tu parlais de l'histoire mondiale de la France, dont le titre même, d'ailleurs, quand on y songe, valait réconciliation. Ça voulait dire qu'il n'y a pas lieu d'opposer l'histoire de France et l'histoire du monde, puisqu'on peut faire une histoire mondiale de la France. Et puisque chaque lieu de ce pays ne peut se comprendre que si on l'englobe dans bien autre chose que lui. Bon. être d'ici, nous sommes ici, nous rêvons d'ailleurs. Voilà. Ce qui est notre commune condition. Effectivement, on a demandé, puisqu'il y a quelques nouvelles dates, celles qui nous séparent de 2015, puisque le livre en 2017 s'arrêtait au moment où il avait commencé, en somme, par les attentats de 2015, qui nous avaient amené, au fond, parce que ça ouvrait un contexte politique, à prendre nos responsabilités d'historienne et d'historien, c'est-à-dire de s'adresser à la société. Et puis cette fois-ci, on a franchi le pas parce que finalement beaucoup de choses nous séparent maintenant de 2017 et il suffit de donner les dates, MeToo, enfin le MeToo à la française, les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine, la France-Afrique et 2024. Je viens de donner les nouvelles dates. Et la dernière, on l'a confiée, tu l'as dit, à Michel Perrault. La doyenne des historiennes, 97 ans. Et quand j'ai été la voir, j'ai été émerveillé par son optimisme. Pourquoi ? Parce qu'elle est une historienne du mouvement ouvrier. Et les historiennes et les historiens du mouvement ouvrier savent que il y a des avancées et des reculs. C'est pas une question de droit acquis. Les droits sont jamais acquis. Mais que on peut reculer, mais qu'on finit toujours par revenir à l'endroit le plus avancé qu'on avait gagné. Que toutes les promesses politiques peuvent être trahies, mais qu'on peut aussi relever les promesses non tenues. Et qu'il y a là un effet de cran du point de vue point de vue de la philosophie historique. Et son optimisme des méthodes, à Michel Perrault, est issu de cette expérience, de l'expérience effectivement du mouvement ouvrier. Elle est issue aussi d'un engagement, l'engagement dans les luttes féministes. Les luttes féministes s'enchaînent, les générations successives s'enchaînent. C'est ainsi qu'on écrit l'histoire du féminisme, comme une course de relais, littéralement, où l'une après l'autre, les coureuses se passent le flambeau. Et c'est à la fois cette philosophie, cette expérience et cette pratique qui faisait dire à Michel Perrault, on passe vraiment un sale moment. On va peut-être régresser, mais on finira par retrouver l'endroit qu'on a gagné et ensuite commencera une autre histoire. Moi, j'y crois à ça. Et ça donne penser quelque chose qui est de se méfier des mots qui pensent à notre place, qui, au fond, paraissent simples et efficaces dans leur capacité descriptive, mais qui, en réalité, nous empêche de penser. Par exemple, backlash. Évidemment que sur l'écologie, bien sûr que sur le féminisme, sur la justice sociale et territoriale, sur la lutte pour les discriminations et pour les droits humains d'une manière générale, on a l'impression d'un balancier qui repart. Mais ça veut dire quoi, un backlash ? Ça veut dire qu'on aurait été trop loin et que le balancier reviendrait ? Mais d'où on a été trop loin ? Je parlais de MeToo, ça ne fait que commencer. Certains milieux professionnels ne l'ont même pas entamé. Et Laure Murat, dans l'histoire mondiale de la France, raconte cette histoire assez singulière que MeToo, en fait, en France, on commence par un backlash. On commence par dire qu'on n'en veut pas. Bon. Donc aujourd'hui, du point de vue de l'écologie politique, j'y viens. Évidemment que ça paraît très presque aveuglant d'évidence qu'on est dans un moment absolument stupéfiant de backlash bon, trumpien, où tout s'aligne, où effectivement le slogan de Donald Trump, drill, baby, drill, ça veut dire fort, chéri, fort, et qui, où tout s'aligne de manière obscène, c'est-à-dire le masculinisme, la culture du viol, l'agression permanente, et évidemment l'économie extractiviste. Au passage, il ne fait que recycler un slogan de Sarah Palin, hein, qui, il y a 15 ans, bon, voilà, qui disait déjà ça. Et évidemment, à partir du moment où il paraît très clair aujourd'hui que les ennemis de la démocratie, de la diversité, des femmes et de la Terre sont les mêmes et sont financés par les mêmes intérêts, cette coalition antidémocratique, elle nous donne à croire qu'il suffirait au fond de s'y opposer pour, par contraste, construire ce que dans un livre très récent, Pierre Charbonnier a appelé la coalition climat. La coalition climat, ça veut dire, est-ce qu'on peut organiser politiquement une coalition, parce que faut pas, voilà, ça suffit pas, les forces de l'écologie politique ne suffisent pas, qui ferait front à cet adversaire qui, au moins, maintenant, a le mérite de s'afficher avec une clarté aveuglante et obscène. Là, on ne peut pas dire en fait qu'ils avancent masqués. Là, maintenant, ça se voit. Bon. Coalition climat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partir du principe, et là encore, il vaut mieux le dire tranquillement et sans accuser personne, car une fois encore, tout le monde a bien travaillé, il ne s'agit pas de se flageller, et c'est jamais de bonne méthode que de s'épuiser dans la haine de soi. Mais on peut partir du principe que si l'écologie politique cherchait à climatiser l'agenda, c'est-à-dire à faire en sorte que cette question, qui est une préoccupation, on le sait, soit devienne la première de l'agenda politique, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas parce qu'il y a toujours plus urgent que les urgences climatiques. Voilà. D'ailleurs, on vient de le voir, là on pense, au fond, on s'en fout du gouvernement. Enfin, c'est quand même frappant. Là, ça fait un mois qu'il n'y avait même pas grand monde qui... Non, mais oui, enfin, entre le moment où... enfin, bon, bref. Il y a encore... Les premières fois, on se disait, ah, c'est long, quand même, on n'a pas de gouvernement. Il y a un moment où, effectivement, cette sorte d'économie de l'inattention peut, effectivement, ce qui est très dangereux sur le plan démocratique, produire une défection telle que plus personne ne l'attend. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment des angoisses terribles qui font que faisons notre examen de conscience, même si on est justement très conscientisé de ces problèmes. Il y a des jours et des jours où on pense à autre chose. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a toujours plus urgent que l'urgence climatique et qu'au fond, la question du temps qui reste, c'est comme ça que j'avais, il y a 2 ans, intitulé un petit livre qui réfléchissait justement sur ce que c'est que les prophètes de malheur et ce qui, au fond, nous empêche d'agir, ce paradoxal sentiment de sidération et de paralysie qui fait que, d'une certaine manière, le sentiment de l'urgence fabrique de l'impuissance, paradoxalement. C'est précisément parce qu'il y a urgence qu'on désespère d'agir. Et c'est encore plus effrayant parce que quand on y songe à hauteur d'homme, bon, moi, je suis médiéviste, mais je ne suis pas né au Moyen-Âge, je ne suis pas un vieillard. Bon. De mon temps, quand j'étais jeune, on me disait l'écologie, c'est penser à vos enfants, c'est les générations d'après. Et c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas envie de penser aux générations d'après, qu'on soit égoïste. Enfin, en tout cas, c'est pas anormal dans un agenda politique, parce que une femme ou un homme politique ne sera pas comptable à cette échelle de temps. qui est l'échelle de temps de l'économie forestière. On plante une forêt et c'est pas nous qui allons l'exploiter. Sauf que là, effectivement, avec l'accélération anthropocène, on peut pas dire que c'est pour les générations suivantes. C'est pour nous. Même si on n'est pas jeune, on en subira les effets. Mais les femmes politiques et les hommes politiques qui n'auront pas agi en subiront peut-être les conséquences politiques, voire juridiques. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc là, il y a un problème, je dirais, de philosophie de l'agir humain général. Nous n'avons sans doute pas les bons outils. Et c'est là où je vais m'arrêter, parce que il ne s'agit pas effectivement de professer, mais simplement de partager. Et de partager les expériences communes. Une expérience commune sur le fait que ce qui paraît inaccessible à un niveau de généralité, d'action politique ou de théorie de l'histoire, doit trouver, à mon avis, ses encouragements, ses inspirations et peut-être même ses solutions dans la constellation des expériences en cours. Autrement dit, notre devoir n'est pas d'invention, mais d'inventaire. Il ne s'agit pas d'inventer un monde meilleur, il s'agit de constater que partout, il faut d'abord en faire la cartographie, que partout, ces futurs non advenus existent déjà et sont pratiqués à différentes échelles par des communautés humaines. Donc il faut atterrir, comme le disait Bruno Latour. Il faut atterrir, il faut descendre d'un cran dans la prétention intellectuelle. Et également peut-être dans l'action politique pour reconstruire, tout le monde le dit, mais il faut le faire, depuis les expériences communes. Et je voudrais rajouter deux choses. La première, c'est que c'est comme ça, qu'on peut se... résoudre cette contradiction entre l'enracinement et le hors-sol. Voilà. Voyez-le par rapport, par exemple, tu faisais allusion à la bataille culturelle. Voilà, on en parlera peut-être. Il y a quand même une offensive très forte de moyens financiers qui, d'ailleurs, même dans l'histoire de l'extrême droite, ont pris tout le monde de court, parce que l'histoire de l'extrême droite, livre récent paru aujourd'hui de Baptiste Roger Lacan, raconte toute l'histoire de l'extrême droite en France depuis la contre-révolution, etc., la nouvelle droite, etc. Personne n'avait vu venir, au fond, ce retour de bâton d'un catholicisme traditionnel le plus réactionnaire. En fait, c'était pas ça qu'on craignait. On craignait une autre extrême droite. C'est celle-là qui est au pouvoir. Au pouvoir, hein. Pas aux portes du pouvoir, au pouvoir. Si on considère l'ensemble des pouvoirs patronaux, financiers, c'est elle qui est au pouvoir. Bon, elle investit ce que Sterrin appelle les fêtes de village. Bien. Est-ce que l'on va opposer le sound system au flonflon de l'accordéon ? Non. Il faut partir de là. Il ne faut pas le mépriser, la fête de village. Si ça vous intéresse, j'ai fait un petit texte dans le Libé des historiens d'aujourd'hui. Libé des historiens, parce que Libération ouvre ses colonnes aux historiennes et aux historiens de profession à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois, dont là, le thème est « La France ?» Point d'interrogation. Bon. Évidemment, tu faisais allusion à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est donné à voir et à entendre, d'ailleurs, beaucoup par la musique là, qui était que on peut être on est différent, ça ne veut pas dire qu'on veut vivre séparés. Voilà. Et que cette diversité peut être aimable. Et j'en reviens à cette deuxième chose que j'annonçais pour terminer tout à fait. Comment ne pas se laisser piéger par cet art de la détestation et redevenir aimable, désirable, politiquement. Je vous raconte une histoire, puis après j'arrête de parler. Effectivement, l'histoire mondiale de la France est parue en 2017, a eu un assez grand succès, public, éditorial, a été adapté dans 15 pays européens, a été adapté au théâtre. Boris Charmat, un des plus grands chorégraphes français, l'a mis en scène, l'a chorégraphié. On a fait. Enfin, comment, je veux dire, un mec comme moi, historien, comment je pouvais vivre un truc plus beau, plus grand? Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux quand on écrit un livre? Que de voir le voir traverser des corps jeunes qui décident de le danser. Enfin, c'est d'une émotion, c'est bouleversant pour nous. Bon. Donc, on était contents. Donc, je crois qu'on a eu l'air heureux, trop heureux. Et il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu me voir, très jeune, 22 ans. Donc ça veut dire qu'en 2017, il était tout gamin. Et il m'a dit, vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Il était de la Sarthe, terfilloniste. Ma famille est du catholique de droite, traditionnel. Il m'a dit, vous savez, il faut que je vous dise combien je vous ai détesté. Parce que j'étais au lycée. Et nos profs, ils nous parlaient de vous, l'histoire mondiale de la France, comme c'est super, voyez. C'est... Et puis vous, vous êtes des ploucs si vous ne voyez pas ça. Vous êtes là-dedans, c'est pas... Vous vous intéressez à votre village, vous êtes de la Sarthe, c'est pas ça, c'est naze. Non, regardez comme c'est... Et vous aviez l'air heureux, qui me dit. Ah, ça, vous étiez content de vous, je vous ai détesté. Je me suis construit contre vous. Puis après, peut-être qu'on en a pris des coups aussi. Les gilets jaunes, etc. Bon. Peut-être qu'on a un peu moins fanfaronné. Et il a cessé de détester cette historiographie des gens heureux. Voilà. Peut-être parce qu'on est moins insupportable. Et il faut travailler, il faut continuer à travailler, à mon avis, dans cette voie-là. Parce que il y a quelque chose maintenant qu'il faudra faire, et là je termine tout à fait, tu disais contre les discours de haine. Il y a un livre magnifique de Caroline Emke, qui est une journaliste allemande, philosophe, qui s'appelle « Contre la haine », qui commence par une scène où c'est en Allemagne, c'est en 2015. Elle voit un quart de réfugiés. Bon, vous savez que Angela Merkel a accueilli près d'un million de réfugiés en 2015, quand la France en a accueilli 18 000. Ça s'est bien passé jusqu'au moment où ça s'est moins bien passé. Et il y a eu un quart de réfugiés syriens qui s'est fait caillasser. Et c'était évidemment très scandaleux, c'était à Lübeck, je crois. Et plutôt que de s'indigner, Caroline Emke écrit « Qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas ?» Les gens qui caillassent ce quart. « Qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas ?» Moi, je vois des visages d'enfants, de femmes, effrayés. Et je les reconnais. Et je les vois en détail. Et on ne peut jamais haïr en détail. Ce qu'on déteste, c'est toujours des humanités vagues. Donc, ils doivent voir quelque chose là-dedans. Une menace, le voile, l'islamisme. Eh bien, moi, je ne le vois pas. Donc, si on veut essayer de se rendre plus aimable, il faut partir de là. Se demander sincèrement qu'est-ce que ceux qui nous détestent voient que nous ne voyons pas. Et ça, il faut qu'on en parle ensemble.
Merci beaucoup. Merci Patrick. J'invite Sheila Sheck et Cécile Duflo à nous rejoindre. Je pense que vous avez sans doute envie de rebondir sur plein de choses, voilà, mais on le fera, voilà, on essaiera de l'organiser. Je vais commencer par donner la parole à Sheila Sheck, parce que d'une certaine façon, on part un peu du plus lointain et peut-être un peu du plus dur, en fait, dans le contexte actuel, puisque Sheila Sheck est, je l'ai dit déjà, chercheuse, maîtresse de conférences en politique internationale à l'Institut de l'Université de Londres à Paris, spécialiste des écologies post- et décoloniales. Vous avez été chercheuse associée et coordinatrice de publications pour Forensic Architecture aussi, qui est vraiment qui font un travail d'utilité publique. Et vous avez coordonné le premier numéro de la revue Pluriverse qui s'intitule « Décoloniser le changement climatique » paru aux éditions L'Observatoire Terre Monde. Tout récemment, vous avez contribué à l'ouvrage collectif « Terre et liberté » qui a été coordonné par Fatima Ouassak et publié aux éditions « Les liens qui libèrent » en avril 25. Votre texte s'intitule « Réenchanter la terre damnée depuis Ramallah ». Donc il y a plein de choses qui nous intéressent dans ce titre. Le mot réenchantement, parce que c'est aussi la promesse, voilà, de donner envie de retracer des avenirs désirables. Et dans cette contribution, vous renversez le projet de Frantz Fanon d'une certaine façon, puisque des damnés de la terre, on passe à la terre damnée ou la terre rendue damnée. C'est la tactique des terres brûlées, hein, mais la terre ravagée par le désastre écologique sous le double effet du capitalisme et du colonialisme. Et donc dans cet article, vous nous emmenez en Palestine, à Ramallah. Donc vous nous renvoyez aussi évidemment à ce qui se passe à Gaza et qui est sans doute le point le plus dur, le plus de l'ordre du désespoir, de ce qui fait que sans doute il peut nous paraître si difficile et insurmontable de changer la vie. Et pourtant, voilà, en Palestine aussi, il existe des initiatives positives, optimistes, pour changer la vie et le système productif. C'est ce que vous racontez dans cet article. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Sakia, qui est à l'intersection entre l'art, la science et l'agriculture, et nous expliquer aussi comment, dans des circonstances aussi terribles, les personnes qui portent ce projet arrivent à créer du commun, quelque chose à la fois très organique, très vivant et extrêmement élaboré. Et comment, voilà, on peut trouver cette énergie ?
Bon, excusez-moi, merci. Je vais juste commencer en remerciant Annie et aussi vu Caroline pour la modération. Et vu toutes et tous, c'est incroyable le public. Je sens mal, je sens un peu impoli parce que je vais tourner tout le temps. Sinon, je mets le dos à certaines personnes. Mais merci aussi à Patrick Boucheron. Vous avez vraiment ouvert beaucoup de pistes et j'ai envie de préfacer un peu la question de Sakia et Ramallah et juste revenir un peu à ce que vous venez de dire parce que je crois qu'il y a plusieurs choses. Bon, les échelles du temps, je peux parler de ça, mais je le laisse pour le moment. Mais sinon, il y a la question d'atterrir. Et aussi la question du backlash, parce que moi, comme vous avez dit, j'ai écrit ce chapitre dans ce bouquin je n'ai pas mon exemplaire, mais je recommande que vous l'achetez et le lisez. Mais c'est le bouquin Terre et Liberté qui est vraiment autour d'une écologie de manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Donc c'est vraiment une réponse à cette question de backlash. Depuis surtout le champ écologiste avec tout l'écofascisme qu'on voit. Donc j'avais écrit un chapitre dedans autour de Ramallah, mes expériences et ce que j'ai appris là, parce que j'ai visité deux fois. Mais je crois que c'est important qu'on parle d'où on est. Et on parle de la question de l'écologie décoloniale antiraciste ici en France. Et j'ai vraiment peur parce que je vois, il y a un côté, je vois qu'il y a vraiment plus de gens racisés, minoritisés, qui font partie de la conversation. Mais j'ai peur, je crois qu'on peut en fait prévoir qu'il y aura un backlash. Je ne sais pas quand exactement, mais on voit avec les forces, le droit, avec l'écofascisme, qu'il y a cette résistance, cet anti-wokisme, qu'il y a une peur. Vous parlez de qu'est-ce que les gens voient, mais je crois qu'ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas envie de voir. Ils n'ont pas envie de voir la libération, l'égalité, tout ça, dans le champ de l'écologie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'avais écrit un chapitre sur Ramallah, mais moi, je ne suis pas du tout porte-parole pour la Palestine. Moi, je suis quelqu'un, je dois me situer, je suis quelqu'un qui enseigne les études postcoloniales, décoloniales. Donc, ça veut dire que pour moi, la Palestine et les pratiques d'écologie dans le sont plus grandes, là, en Palestine, sont nous dans une leçon, en fait. Il y a les expressions comme la Palestine et le sérum de vérité, la Palestine et un boussole, mais c'est aussi la Palestine, c'est pas nous qui allons sauver la Palestine, c'est la Palestine qui va nous sauver. Et c'est la Palestine, et ça c'est quelque chose que je dois vraiment souligner, c'est la Palestine qui va peut-être sauver ou réinvigorer l'écologie ici. Donc je crois que c'est important de parler d'ici, d'être atterri ici, mais aussi en relation avec les projets anticoloniaux, décoloniaux, partout dans le monde. Donc ça c'est le préface. Ok, le projet SAKIA, c'est un projet qui s'appelle SAKIA Art, Science, Agriculture. C'est un projet juste au dehors de Ramallah, dans Cisjordanie. Et c'est un projet qui a été fondé par un artiste, Nida Sinerhot, et une architecte, Sarah Kawazmi. Et maintenant, ce sont des amis. Ils m'ont invité là en 2016. On avait fait une journée d'études autour des questions des communs. Les héritages de la taxonomie botanique, et ça c'est vraiment important si on pense les systèmes de propriété de la terre, là en Palestine, depuis le contexte ottoman. Maintenant, c'est un système qui est vraiment basé sur cette taxonomie du vivant. Et après, je m'excuse pour mon français. Ils avaient ouvert cet espace qui est vraiment, et c'est une ferme dans le campin, juste à côté de Ramallah. Ils avaient rénové, restauré des ruines, des bâtiments très très vieux. Et là, ils avaient commencé à pratiquer une école qui est dans le jardin, au dehors. Donc, ils utilisent un terme, le réensauvager, la pédagogie, qui est une double sens. On peut enseigner c'est quoi le réensauvagement, le rewilding en anglais, mais c'est aussi une question de réensauvager la pédagogie même. Donc c'est une question de repenser les hiérarchies entre les spécialistes, les universitaires, les agricoles, les paysans, les agroécologistes, les artistes, les architectes, de repenser la question de l'expertise. Et là, ils font des projets, ils invitent des artistes, ils font des projets agroécologiques. Mais ce qui est important, pour revenir à votre question, et cette question du futur, de changer la vie, tout ça, et pour revenir à votre intervention autour du futur et le passé, les générations, c'est que là, ils essaient vraiment de restaurer, de réinvigorer les pratiques et les traditions agricoles qui étaient pratiquées pendant des siècles là, en Palestine, sans le romanticiser, sans faire un geste orientaliste qui veut dire, on le voit partout, cette regard orientaliste, c'est-à-dire, bon, il y a les traditions orientales, par exemple, qui sont un peu, on peut dire congelées en temps, en anglais c'est frozen in time, ils sont congelés là, dans le passé. Et ça, c'est, si on veut dire traditionnel, ça veut dire que c'est un peu backward, en fait. Que ça, c'est les cultures qui ne connaissent pas le progrès, qui ne connaissent pas la technologie, tout ça. Donc, c'est une question de réinvigorer le passé, réinvigorer les connaissances, les savoir-faire traditionnels, mais sans le limiter dans ce sens. Et c'est surtout une question d'interroger comment on peut pratiquer les communs, là. Ça veut dire les communs, c'est contre la propriété de la terre, mais c'est aussi les communs des savoirs. Parce que comment on peut pratiquer, par exemple, le piratage, là. Ça veut dire contre le copyright, les droits d'auteur, contre la privatisation, soit de la terre, soit des ressources naturelles, soit la connaissance, les savoirs en général. Donc là, c'est super difficile, évidemment, de le faire en ce moment. Et il y a les incursions tout le temps avec les colons qui viennent, qui détruisent tout. Donc, ils sont obligés de reconstruire à chaque moment ce qu'ils avaient passé. Ils avaient dépensé beaucoup de temps à construire avec beaucoup d'amour. Mais il y a cette... résistance, qu'on dit en arabe soumoud, en anglais c'est steadfastness, je ne sais pas comment le traduire, mais c'est patience, cette déni de c'est quoi, to give up, acquiescer en fait. Ouais. J'arrête là, sinon je peux continuer pendant longtemps.
On pourrait prolonger sur la question des communs, sur la question de la réparation. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses aussi dans l'article sur la justice réparatrice, sur l'écologie régénérative, sur le réensauvagement, comme vous l'avez dit. Mais je pense qu'on refera peut-être un tour sur une thématique pour tout de suite donner la parole à Cécile Duflo. Alors, Cécile Duflo, je ne vais pas vous représenter à nouveau parce que je crois que vraiment tout le monde vous connaît ici. Évidemment, je voulais vous lancer sur la thématique, mais peut-être que vous avez aussi envie de rebondir sur la notion de backlash, sur celle de coalition climat aussi, parce que c'est aussi quelque chose auquel vous avez appelé dans un article du Nouvel Observateur très récemment. Vous êtes libre de saisir l'un ou l'autre de ces thèmes.
Alors, d'abord, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse qu'il y ait autant de gens. Voilà, c'est un très bel événement. Je voudrais féliciter tous les organisateurs. Assez ressourçant. Donc oui, merci beaucoup à tous. Je suis particulièrement honorée de partager la tribune avec vous deux, mais moi je ne suis pas une grande chercheuse, pas une grande universitaire, donc je vais être beaucoup plus terre à terre. Et j'étais très contente de ce sujet aussi, en se disant en fait il y en a marre de perdre tout le temps. Parce que quand on est écologiste, moi j'ai 50 ans, ça fait 25 ans que je suis une écologiste très active, c'est la loose quand même. Enfin, je veux dire, c'est même presque pire. Mais le problème, c'est que quand on est dans des moments où il faut dire que ça va aller, ben on se remotive, on dit qu'on a raison. D'ailleurs, on a raison, les écologistes ont eu raison depuis les années 70, tout ce qui a été documenté était à peu près vrai, etc. Et donc, on va y arriver et on se remonte sur ce, et on essaye de se remotiver comme ça. Il y a une petite erreur, à mon avis, quand même, c'est que quand, et notamment pour l'écologie politique, ça fait 40 ans, quand ça rate depuis 40 ans, on est quand même obligé de se dire que peut-être c'est pas tout le monde qui est nul, mais peut-être qu'on a fait quelques erreurs. Et de faire cet exercice-là avec sincérité. Parce que je pense que c'est utile si justement on veut essayer de gagner. Alors déjà, je voudrais redire un élément sur la clé de la victoire que je tiens de Kylian Mbappé, c'est très récent. Mais c'est très sérieux. Il explique qu'il est parti à Madrid et que ça va mieux et qu'il a réparé son corps et qu'il a réparé son cerveau. C'est une machine de guerre, Kylian Mbappé, physiquement, tout ça, il est très talentueux. Mais en fait, lui aussi, il losait et il n'arrivait plus à marquer de but parce qu'il n'allait pas bien dans sa tête. Et je pense qu'on a un sujet d'aller collectivement bien dans notre tête parce que sinon, on peut tout essayer de faire bien. Si on n'y croit pas, et il y a un peu de ça, ça ne marche pas. Pourquoi on n'y croit pas? Parce qu'on a fait, à mon avis, j'endosse la responsabilité des écologistes, plusieurs erreurs, dont une qui est exactement affichée à côté de nous. Là, il y a la une du Nouvel Obs, donc j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de réseaux, mais j'ai trouvé. Elle date de 1971. Elle dit les 30 dernières années de la Terre. Chut ! On est 20 ans après les 30 dernières années de la Terre et on est toujours là. Un petit hommage à Yves Cochet, qui en 2006 a publié un livre qui s'appelle « Pétrole Apocalypse », dans lequel il explique que ça ne sert à rien de s'empailler sur est-ce qu'on accueille les Jeux Olympiques à Paris ou pas, vu qu'il n'y aura plus d'avions en 2012. Vous pouvez trouver ce livre, il est toujours en vente sur Recyclivre, 2,50 €. Et il y a des avions. Et donc, on a quand même dit beaucoup de choses. Et puis aussi, il y a eu toute cette période sur l'effondrement, donc qui est bien, bien plus tardive que les années 70, sur tout va s'écrouler d'un seul coup, tout le système, etc., etc. Donc il faut se préparer à résister, vivre à la campagne, avoir un puits avec de l'eau, tout ça. Techniquement, ce n'est pas possible, puis ça veut dire aussi qu'on abandonne tous les gens qui vivent en ville. Enfin, ça, c'est un petit sujet annexe. Mais là aussi, ça ne s'est pas réalisé. Mais surtout, ça produit un effet particulier. Et ça, je pense qu'il faut qu'on parle de l'espèce humaine. C'est que ça produit un effet assez naturel, c'est qu'on est une espèce qui est un peu averse au changement. Et face aux trucs qui nous contrarient, on a un mécanisme de défense extrêmement simple. Quand un coup part en vrille, quand on sait qu'on devrait arrêter de manger du sucre, mais qu'on est face à une pavlova et qu'on en mange la moitié, qui s'appelle le déni. Le déni, c'est hyper confortable. Ça me contrarie, ça n'existe pas. C'est très pratique, c'est exactement le même système que les enfants de 2 ans qui jouent à cache-cache, qui mettent leurs mains sur leurs yeux et qui disent « je suis caché, je suis caché ». Bah, nous, on fait ça avec le climat. Et quelque part, il faut comprendre que si on n'arrive pas à sortir, à nous sortir du déni, et surtout à faire en sorte qu'on y arrive ensemble, et pas que quelques-uns, avec cette idée, si vous avez tout compris à l'écologie, si vous mangez de la salade de quinoa avec des lentilles corail, vous serez sauvés. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Donc, comment on fait pour faire face à ce défi-là? Et c'est pour ça que j'ai parlé de coalition climat, c'est que je pense, et ça fait tout à fait écho avec ce que vous avez dit tout à l'heure, être sympathique et être aimable. Les écologistes ont donné le sentiment, et peuvent encore le donner, qu'eux, ils savent. C'est pas faux. Ils avaient raison. Mais du coup, eux, ils savent. Et ce que eux aiment, c'est mieux. C'est mieux de faire du vélo. C'est mieux de manger végétarien. Moi, j'ai été alpaguée par une personne qui s'est penchée sur moi quand je mangeais un yaourt et qui m'a regardée et qui m'a dit « Toi, t'aimes le viol ?» J'ai un peu écarqué les yeux. Elle me dit « Tu crois que la vache, elle était consentante ?» Et là, je me suis dit « Waouh, 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 waouh. » Mais ça n'est pas que caricatural. C'est que ça arrive souvent. Vous avez tous entendu parler d'une écologiste qui a expliqué que le barbecue, c'était viriliste et anti-écolo. Mais le barbecue, c'est un élément de sociabilité de 85%, 90% de la société française. Donc même ceux qui ne sont pas d'accord et qui sont écolos ne disent rien. D'autres montent sur leurs grands chevaux et en font un argument. Mais on crée de la tension. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que si on veut vraiment faire la transition écologique qu'on appelle de nos voeux, un modèle sobre, un modèle avec moins de transport, avec une alimentation différente, qui ne gaspille plus, tout ça, ça va être super compliqué. Et quand on doit faire des trucs super compliqués, il faut serrer les coudes et le faire tous ensemble. Il ne peut pas y avoir une petite élite qui dit « nous, on sait » et tous les autres, vous obéissez. Ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut réussir à se dire ça. Et c'est pour ça que cette idée de coalition, où on arrive à faire avec des gens différents, où on arrive à embarquer par des chemins qui ne sont pas forcément les nôtres. J'ai raconté l'histoire du yaourt. Je peux dire ce qui est arrivé à la ministre du logement que j'étais. Dans mon bureau, je me suis fait beaucoup grogner par des écologistes très engagés dans la rénovation thermique des bâtiments, en disant, si ce n'est pas des rénovations intégrales, franchement, en gros, mieux vaut rien faire. Mais sur... à la fois la mobilisation du budget de l'État, l'existence des entreprises, tout ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas faisables. Et il peut y avoir cette idée que si ce n'est pas exactement idéal, on ne fait pas. Et ça, je pense qu'il faut réussir à dépasser toute cette histoire-là. Parce que ce n'est pas satisfaisant que l'écologie politique, ça finisse toujours par faire 5% aux élections à un moment ou un autre. Et à cet instant, et ne croyez pas que c'est la soirée où je veux dire du mal des écolos, je m'inclus totalement, je suis un bon exemplaire. D'ailleurs, j'ai toujours des pétales de tournesol autour de la tête, donc j'assume. Mais c'est vrai que l'écologie politique, qui s'est construite dans l'adversité, très difficile des années 70, s'est construite avec une capacité de résistance très forte, mais avec une opposition, et c'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, avec une opposition à l'État. Pourquoi ? Parce que l'intérêt général... dans les années 60-70, c'était incarné par l'État, dans un pays qui était beaucoup plus jacobin et pas décentralisé qu'aujourd'hui. Et quand il disait « la ligne de TGV, c'est tout droit, celle qui passe pas loin d'ici », et qu'on tentait de dire « là, il y a une zone humide, rien à faire, tout droit, le nucléaire, etc. 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 » Donc les écologistes politiques ont développé une aversion à l'égard de l'État, qui s'est traduit par un discours qui disait « nous, en fait, notre cible, c'est les élections locales, les régions, et l'Europe. Mais le pays, l'État, pas notre truc. » Mais résultat, on n'engage pas cette idée qu'il y a la possibilité d'embarquer tout le pays. On ne pense pas à la question du rapport à l'histoire, du rapport à la nation, du rapport à l'identité française, alors même que, et donc du coup je vais passer aux éléments positifs, je pense que c'est ça qu'il faut raconter. Et pourquoi on peut le faire en France ? Parce qu'on est quand même, et votre livre le montre assez bien, on se la pète quand même globalement. Quand on travaille comme moi dans une organisation internationale, c'est très marrant de voir le rapport que les Français ont par rapport à leur propre taille. Tous les autres pays équivalents, ils sont quand même relativement modestes. Nous, on trouve ça normal d'être au Conseil de sécurité de l'ONU. Pardon, c'est nous. Hein. On trouve tout normal. Et on a un peu raison, parce que la France est le pays qui reçoit le plus de touristes étrangers du monde. C'est le pays qui accueille le plus de personnes, que les gens ont le plus envie de visiter. Parce que Cluny, parce que Versailles, parce que la Seine, parce que les falaises d'Étretat, parce que. Mais nous, on est tellement habitués qu'on n'est même pas tellement fiers de ça. Parce que si on était fiers de ça, si on aimait Chenonceau, si on aimait les glaciers, même juste pour cette raison, donc sur une vision très conservative, finalement, on dirait, attendez, il ne faut pas qu'on touche à ça, il faut qu'on garde notre patrimoine. Et du coup, on deviendrait écolo. Même pas pour des raisons liées à l'avenir de la planète, même pas pour la biodiversité, juste pour conserver la France telle qu'elle est. Et c'est le paradoxe que je trouve au fil de l'histoire le plus curieux, c'est l'impossibilité de penser l'identité collective que ça signifie d'être écologiste. Et que cette tension et cette distance avec l'État et avec la France a finalement été une fragilisation pour pouvoir accéder à l'endroit où on pilote quand même beaucoup de politiques publiques. Et pourquoi ce serait très bien ? Parce que pendant longtemps, on a dit, mais de toute façon, c'est la Chine et les États-Unis, tant que la Chine et les États-Unis ne bougent pas, ça ne servira à rien. Eh bien, tous les grands événements politiques montrent que souvent, il y a un effet d'exemplarité. Il y a un effet qui tire, je parle souvent de contrôle, vous pouvez m'engueuler si je dis des conneries. Il y a un effet qui tire les autres parce que les dirigeants se regardent mutuellement, parce que les pays ont des images d'eux réciproques, et si on dit nous, on peut y arriver, bah, ça emmène les autres. Nous, on a fait cet exercice à Oxfam avec les banques, en donnant des leçons assez sévères à un certain nombre de banques. Et puis, des fois, en donnant des bons points. Et par exemple, il y a 3 ans, je crois, on a dit que le Crédit Mutuel était très en avance. Et j'ai reçu un appel du patron de la Banque Postale qui m'a dit « Oui, alors je suis un peu étonnée quand même, je comprends pas. Je pensais qu'on était très très bon. J'ai vu qu'on était dépassé par le Crédit Mutuel, ça me semble pas normal. » Je lui dis « Monsieur le Président, en fait, nous, on fait des analyses précises. Il faut qu'on se voit. » Très bien. Et la Banque Postale a sorti la politique, l'année d'après, sur le désinvestissement dans les fossiles, la plus exemplaires qu'on puisse imaginer à l'échelle mondiale. On a même dit ça, parce qu'on a essayé de regarder, mais vraiment, ils étaient très, très bons. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été contrariés d'être moins bons que le Crédit Mutuel. Et donc, je pense qu'on pourrait faire cette chose, utiliser cette caractéristique particulière qu'ont les Français d'être très fiers d'eux-mêmes et de penser qu'ils ont quand même donné des leçons au monde entier en disant « Écoutez les gars, vous savez quoi ? On va aussi donner des leçons sur l'écologie, vu qu'on est très fort, vu qu'on est français. » C'est-à-dire de renverser tout ça. Et ça, c'est très contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure sur les écologistes, qui, comme ils se sont construits contre l'État, se sont aussi construits pour être très résistants, mais souffrent d'une maladie que moi j'appelle la minorisation. Quand vous avez la varicelle, il y a deux symptômes, les boutons et la fièvre. La minorisation, ça fait opportunisme et sectarisme. Sectarisme, c'est que vous pouvez diviser les écolos en chapelle jusqu'à l'infini. Même certains individus écologistes réussissent à se diviser en deux eux-mêmes, parfois, je pense. Et l'opportunisme, c'est que les Verts, Europe Écologie, les Verts, les écologistes sont, je crois, à ma connaissance, le seul parti qui a réussi à faire que chacun, qu'un de ses leaders soit présent dans l'ensemble des partis politiques du spectre français. Peut-être pas le RN, mais on a un ancien secrétaire national chez les LR, un ancien secrétaire national chez les macronistes, un chez les socialistes, un au Modem, on a fait toute la palette. Alors on peut imaginer que c'est une vision trotskiste infiltrée très réussie, ou se dire juste plutôt que les écologistes se disent comme on ne gagnera jamais, à un moment s'il y a un gros truc qui passe, hop on le chope. Et ça, c'est problématique parce que ça ne donne pas de la crédibilité pour être hyper adhérent. Ensuite, je vais dire où on en est aujourd'hui. On est aujourd'hui dans un moment de loose collective. Et je pense que là où ça va encore moins bien, c'est que je fais écho à ce que je disais tout à l'heure. En ce moment, si vous lisez la presse internationale, les Français qui sont super fiers d'eux, là, c'est la rchouma mondiale. Tout le monde nous prend pour des zinzins. Le mec qui est Premier ministre, qui ne devient plus Premier ministre, l'autre qui démissionne pendant la nuit, et le président de la République enfermé là, qui fait n'importe quoi, et qui de temps en temps fait de la télé-réalité en allant se balader au bord de la Seine pour qu'on le voit sur les caméras, sans parler du ministre l'économie qui a créé 1000 milliards de dettes, mais qui trouve utile de revenir, et quand il se fait virer, il fait télé-réalité sur fond noir en disant « Ouais, j'ai appelé le standard de l'intérieur !» Est-ce que quelqu'un se rend compte du niveau de ridicule qu'on a ? Parce que moi, je peux vous le dire, j'ai des collègues qui m'envoient des messages sur le groupe Signal. Et ben moi je suis française, du coup j'ai un peu la honte et j'aime pas du tout ça. Et donc le problème qu'on a, c'est que non seulement on est un peu déprimé, mais qu'en plus on a honte de nous-mêmes. Et un Français qui a honte de lui-même, c'est un Français qui va pas du tout bien. Et donc on a un peuple qui va pas du tout bien. Ça va pas du tout du tout. Et donc la question, c'est comment on renverse ça. Et je pense que le seul moyen de le renverser, c'est de se lancer dans une aventure collective. Et aujourd'hui il y en a pas. Il y en a pas parce que on est dans une situation parlementaire où il faudrait faire un truc, alors ce qui me fait hurler de rire, pardon de le dire, tous ceux qui défendent la 6e République et la proportionnelle, au premier rang d'entre les écolos, ils ne sont pas rendus compte que la proportionnelle, ça fait exactement cette assemblée. Si vous regardez, c'est quasiment pile poil. Le corps collectif français a réussi un truc exceptionnel, c'est de réussir à faire une proportionnelle quasiment intégrale à l'Assemblée. Il y a 11 groupes. Donc c'est typiquement un truc de proportionnelle intégrale avec un scrutin majoritaire à 2 tours. On est des génies, je vous le disais. La France, on est très fort. Et donc, tous ceux qui disent on veut la proportionnelle, les gars, vous l'avez déjà. Et qu'est-ce que vous en faites ? Rien. Parce que vous êtes incapables de, justement, dialoguer avec des gens différents. Tous ceux qui vantent la démocratie participative, la capacité à créer du collectif, dès qu'ils ne sont pas eux tout seuls à gagner, et pardon de le dire, là, je le dis en tant que vraiment ancienne politique qui sait comment ça marche, mais en tant que dirigeante de la société civile, franchement, ce n'est pas possible. Vous aviez les gens de gauche qui disaient aux macronistes, depuis de 2022 à 2024, les gars, vous gouvernez tout seul alors que vous n'êtes pas majoritaire. C'est scandaleux, c'est insupportablement inadmissible. Ok, très bien, il y a une dissolution, une élection, la gauche arrive en tête, youpla. Ils ne sont pas majoritaires tout seuls. Et qu'est-ce qu'ils disent ? On veut gouverner tout seul. Logique de ce truc ? Nulle, aucune logique. Donc est-ce qu'on est capable de parler avec des gens différents ? Bah, c'est ça tout le défi. Et c'est effectivement ça. Et la question qui est de faire face à une tentation de retour en arrière, c'est de se projeter vers une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, on ne la voit pas. Et donc je pense qu'il faut réussir à dégager cette nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, elle doit se départir des erreurs de l'écologie d'avant. Et elle doit faire le lien profondément avec l'histoire du mouvement ouvrier et de ses conquêtes. Parce que oui, ça, c'est une vraie leçon. Donc on crante. C'est Louis Besson qui m'avait dit, dans le logement, et à l'époque, il me voyait, il me disait, vous inquiétez pas, faites des trucs. Même si ça rate, ça crante. Il parlait de l'encadrement des loyers. Et c'est exactement ça. Et là, on a peur de pas savoir cranter, alors qu'on pourrait le faire. En liant, je pense, ces deux dimensions. Et je crois qu'il faut qu'on ose y ajouter une troisième histoire, qui est une troisième question, qui est celle de la sécurité. Un impensé hyper compliqué, avec certains qui sont constituants en disant « Regardez, moi, je suis de la gauche moderne parce que je mets des caméras de vidéosurveillance, etc. » Vrai, faux débat. On est dans un pays qui commence à être intoxiqué par le narcotrafic, par la violence, par la corruption. Et tout le monde est un peu dans le déni. Et le discours « la drogue, c'est de la merde » et « on va faire rendre gorge », ça ne marche pas. Donc, il faut faire autrement. Mais je pense qu'il faut lier ces trois dimensions. De la même manière que, pour moi, l'horizon, c'est un horizon qui digère des choses de notre pays. Un, l'histoire du mouvement ouvrier, la gauche, traditionnellement. Deux, les idées de l'écologie politique. Et trois, je vais être sympa ce soir, l'expérience et la culture de l'exercice du pouvoir de la social-démocratie. Parce que la social-démocratie, elle s'est perdue dans un sujet qui était de distribuer les fruits de la croissance. Fondamentalement, c'est anti-écolo, ça tient plus, ça marche plus. Et ils n'ont plus été que dans l'histoire de « oui, mais on sait gérer ». Ça a fini, comme on sait, en 2017. Mais si on réinvente une histoire, parce que les histoires se réinventent sur tout ce qui a existé, sur la fierté d'être français, ce qui n'est pas une chose moche, parce que moi, je suis contente, en fait, de ce pays. J'aime bien ce pays où tu viens avec un bébé malade. Tu t'en fous qu'il soit français, pas français. Dans un hôpital, on le soigne. C'est une sacrée fierté. J'en ai marre de ce débat sur le record du monde des dépenses publiques sur le PIB. Bah, évidemment, nous, on a la santé, on a les retraites dont les dépenses publiques demandées à mes collègues américains qui doivent payer pour avoir une mutuelle, demander à ceux qui doivent payer eux-mêmes. Bah, évidemment, si on fait des ratios dépenses publiques sur PIB et qu'on n'inclut pas les transports, qu'on n'inclut pas l'école, évidemment, on peut faire n'importe quoi. Donc, il faut pas avoir peur. Et ça, c'est le dernier truc, c'est qu'il faut être un peu offensif. Franchement, ce qu'on défend, c'est bien. Hein. Tout le monde va aller mieux. C'est mieux pour la santé, c'est mieux pour l'égalité femmes-hommes. Oui, c'est mieux de lutter contre les discriminations. Et en vérité, et moi je le dis souvent, ceux qui en bénéficient, c'est tout le monde, y compris ceux qui sont contre. Marion Maréchal Le Pen. Je vous le dis parce qu'un jour, j'ai eu un petit trauma. Je vois arriver une femme enceinte de loin, hyper belle. Et je me dis, elle est jolie, elle. Et tout d'un coup, je réalise, boum, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle était très jolie. Mais Marion Maréchal Le Pen, elle a divorcé, poulette. Elle s'est remariée. Elle a eu deux enfants avec deux maris différents. S'il y avait eu au pouvoir ses amis, là, elle n'aurait jamais pu divorcer. Elle aurait été engluée dans son mariage de merde avec son connard de mari jusqu'à la fin des temps. Donc heureusement qu'il y a eu des gens comme nous pour que Marion Maréchal Le Pen puisse divorcer. Bah, c'est la même chose sur le reste. Donc il faut à la fois penser qu'on a raison, mais il faut, comme on a raison et que ce scénario-là, il est possible, il faut donner envie et il faut le faire ensemble. Et il ne faut pas insulter les gens qui mangent des yaourts. Il faut dire, même quand c'est moi, et il faut dire qu'on peut manger de la viande, mais que par exemple, dans le hors-domicile, on va faire plus souvent des repas végétariens. Enfin, la transition, et c'est ça que dit Pierre Charbonnier avec la coalition climat, c'est qu'on peut faire des étapes. Et notamment, il faut aussi être accepté de travailler avec les entreprises. Si on veut réussir tout ça, il va falloir le faire avec les entreprises. Et pour ça, il faut que les écologistes n'aient pas peur et ne restent pas juste avec eux. Parce que oui, il faut être ensemble pour se tenir chaud. Mais le problème, c'est que parfois, l'extérieur devient si inamical que tu ne sors plus du tout. Donc il faut rentrer dans sa petite cabane, là, ici, entre nous, on est bien, on est content, on va boire du vrai vin bio, on boit des super tisanes tout aussi bio. Et il faut ensuite essayer d'aller dans les bars, boire de l'orangina et convaincre plus largement. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de boire de l'orangina, mais ça veut dire qu'on comprend que des gens boivent de l'orangina, même si c'est plein de sucre et pas bon pour la santé. Mais c'est ça l'histoire, c'est comment on fait France ensemble. Il y a une très jolie chanson de Marc Lavoine qui s'appelle « C'est ça la France » et qui dit bien les choses. Qui dit c'est du couscous poulet et des rues pavées. C'est ça la France en fait. Et si on arrive à raconter cette histoire, et c'est pour ça que les historiens sont précieux, à dire d'où on vient, ce qu'on est devenu, et ben on arrive à savoir où on va aller ensemble. Mais il faut être aussi un peu conscient des erreurs qu'on a pu faire. Sinon, on va continuer à donner des leçons. Et moi, je suis très confiante, je termine là-dessus, je pense qu'on peut gagner en 2027. Et je vous le dis, j'en veux plus des gens qui écrivent des bouquins sur résister. Parce que résister, ça veut dire qu'on a déjà perdu. Je le dis, Pouria Amirshahi, qui a organisé la digue en allant voir partout dans les pays qui sont basculés à l'extrême droite, comment on fait pour résister quand l'extrême droite est au pouvoir ? C'est très bien, il faut le faire. De toute façon, ça va être c'est très compliqué. Mais moi, je voudrais qu'on fasse la vague. Et si on regarde le travail d'excellents sociologues comme monsieur du premier rang, si on regarde l'évolution de l'indice de Gini qui montre qu'on a explosé les inégalités, ben si on regarde l'évolution de l'indice de Gini sur les 60 dernières années en France, quand il monte très très haut, il finit par... c'est la victoire de la gauche. Parce que ce pays s'est construit autour des valeurs, et notamment des valeurs d'égalité, et autour de la fin des privilèges. Et aujourd'hui, on est en train de recréer une caste de super milliardaires qui est totalement et inadmissiblement en train de prendre le pouvoir avec son argent. Et la seule solution, c'est de leur en piquer un bout. Ça ne va pas les rendre plus malheureux, mais ça va nous aider à vivre mieux. Et ça, ce n'est pas si impossible à faire pour une raison simple. Les milliardaires français, ils ne sont pas très nombreux. Ceux qui seraient concernés par la taxe Zuckmann, ils sont 1800. On est 67 millions. Faites le calcul.
Alors merci, ça ne me facilite pas la tâche pour essayer de tirer un fil dans tout ce qui a été dit pour recréer un lien entre nous. Je vais simplement saisir le mot d'histoire, les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'il faut aussi régénérer. Ça rejoint aussi les enjeux de batailles culturelles qui sont souvent des batailles de récits. Je vais peut-être donner aussi la parole à Sheila Shek, parce que justement dans votre article, vous parlez aussi de cet enjeu de régénérer, enfin d'aller chercher des imaginaires alternatifs. Vous citez aussi l'artiste qui participe au projet à Ramallah et qui parle de cultiver des mythologies durables. En tout cas, cet enjeu de réenchanter, il passe aussi par une certaine spiritualité et par des imaginaires, des récits, voire des mythologies. Et après, peut-être, je donnerai la parole à Patrick Boucheron. D'abord, Sheila.
Bon, je peux revenir à cette question des échelles, parce que là, je parle cet article de question de réenchanter la Terre. Mais en place de juste revisiter cet article, j'ai envie de parler dans une échelle un peu plus grande, parce que cette table ronde, cette panel, c'est autour de redonner envie de changer la vie. Et je crois que ce n'est pas une question d'avoir envie, c'est une nécessité, c'est un impératif, point. Et je reviens à cette question du génocide qui se déroule face à nos yeux, qui est aussi un écocide. Donc si on est ici, on s'intéresse à l'écologie, c'est une question de la destruction, ce crime de détruire. Pas juste les vies des humains, mais la vie en général. C'est détruire la Terre et c'est détruire les relations entre les humains, les non-humains, mais les vivants en général. Donc si on pense à ça, j'ai en tête les mots du président de la Colombie, Gustavo Petro. Récemment, il a dit les choses incroyables, inspirantes, j'imagine que vous avez vu. Mais l'année dernière, en 2024, pour revenir à cette question de l'écologie et le changement climatique, il avait dit « ce qui se passe là, à Gaza, c'est la répétition de ce qui va arriver dans le futur partout. » Et c'est pour ça que ça doit nous concerner, ça doit nous intéresser. Parce que même si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe là, à Gaza, ça va revenir à nous, ici. On le voit déjà aux États-Unis avec la brutalité de la police qui sont enseignées par l'armée israélienne. On le voit ici en France avec les meurtriers des gens racisés. On pense à Naël, par exemple, mais partout, la violence policière. On pense à ce que Aimé Césaire avait dit quand il parle d'un choc en retour, le boomerang effect. En fait, la violence qui se déroule là, derrière, c'est au-dehors de notre regard, ça va revenir. Et plutôt quand il a parlé de ça, de cette répétition, il a parlé précisément du question du changement climatique. Parce qu'il a dit, c'est ça qui va se passer ici, dans l'Occident. Bon, lui, il est en Colombie, mais on peut pas le penser ici, depuis l'Europe. Parce qu'à cause du changement climatique, il y aura de plus en plus des réfugiés climatiques qui vont venir ici, qui vont être reçus par l'extrême droite, par les écofascistes, tout ça avec la violence. Et ça, ça va amener la violence venue aussi. Donc, c'est juste pour dire que cette question de redonner envie, de changer la vie, c'est, non, désolé, c'est impératif qu'on change le monde. Absolument. C'est impératif qu'on pense, qu'on a en tête les mots de François Fanon. Quand il parle de la vraie décolonisation, c'est un désordre absolu, c'est un basculement absolu. Ça veut dire que ce n'est pas une question de manger des yaourts, comme tu dis, c'est super. Ce n'est pas du tout cette question de faire le tri, là, là, là. Mais évidemment, on peut penser de ça, mais c'est vraiment une question de le boycott, de résister le capitalisme, le colonialisme, tous ces systèmes. Désolé, je semble naïve ou utopique, mais c'est ces systèmes avec le patriarcat qui détruit la terre, qui est en train de détruire le monde dans lequel on habite. Donc c'est juste pour dire que y a les échelles et on doit avoir en tête l'urgence de cette question de changer le monde. Quand on parle de changement climatique, il y a le fin de monde qui arrive, mais le fin de quel monde? En fait, on a besoin de changer, on a besoin du fin d'un certain monde, on a besoin du fin de ce monde qui détruit le vivant. Donc il y a cette urgence, je suis totalement d'accord. Il y a cette question d'urgence qui empêche d'agir, mais on doit aussi penser au long terme de comment, par exemple, si on pense au Nakba, à la Nakba en Palestine, c'était pas juste en 1948, c'était un processus, une catastrophe qui continue, qui était contre la terre et qui a continué jusqu'à maintenant. Donc on voit cette violence qui est vraiment lente, qui est le fond sur lequel la violence de la guerre prend place. On peut penser au figure ground en anglais, c'est le fond et c'est les figures. Le génocide qu'on voit maintenant, ça c'est le figure qui prend place sur cette fond qui est le fait de détruire la terre, de profiter de la terre, de l'exploiter, tout ça. Donc on doit penser à ces deux échelles, mais il y a cette urgence de prendre les actes assez forts. Et je pense le boycott, évidemment, mais le manifester, tout ça. Bon, j'ai perdu mon fil, mais voilà.
Oui, vous parlez de Frantz Fanon et vous en parlez magnifiquement bien dans vos travaux d'ailleurs, parce que c'est un théoricien essentiel, on le comprend, de la colonisation. On n'oublie pas non plus, et vous n'oubliez évidemment pas, que c'est un psychologue et qu'il avait une activité clinique. Et donc, ce qui caractérise les situations humaines et historiques dont nous parlons, c'est qu'elles nous traversent littéralement et que, par conséquent, la dernière fois, nous ne sommes pas un peuple colonisé, mais nous avons été, comme tous les peuples de la Terre, colonisés par le rétrovirus, et nous avons donc éprouvé à la fois physiquement et politiquement cette épidémie qui traverse et les corps et les frontières et qui effondre toute barrière entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui m'appartient et ce qui est au monde, c'est tout. C'est cette expérience-là que Fanon décrit bien et qui doit aussi nous amener, comme vous l'avez fait, à réfléchir aussi sincèrement cet examen de conscience. On ne perd pas son temps politique à s'examiner soi-même parce que, d'une certaine manière, on est traversé par ça. Donc moi, ce que j'ai aussi retenu de ce que vous avez dit, c'est cette question des échelles, comme vous le dites. Dès qu'on en abandonne une, on finit toujours par en payer le prix. Je n'avais pas réalisé, mais j'étais très intéressé effectivement parce que vous avez dit sur cette... au fond, pour des raisons politiquement tout à fait compréhensibles dans les années 70, comment l'écologie politique a été statophobe. Et dans un pays, la France, qui s'est fondée comme puissance nucléaire, être statophobe, ça voulait dire être aussi technophobe.
Et aujourd'hui, ça pose problème. C'est-à-dire que la coalition que vous appelez de vos voeux, évidemment, elle doit élargir les partenaires politiques, s'ouvrir aux entreprises et aussi peut-être à la science. Parce que là, il y a quelque chose effectivement de paradoxal. Enfin, c'est la question que je vous pose. Hein. Je crois connaître votre réponse. Le paradoxe, au fond, c'est que le consensus scientifique, vous avez dit souvent, c'est quand même difficile pour les écologistes d'admettre qu'ils ont eu tort politiquement tant ils avaient raison scientifiquement. Ça ne nous aide pas d'avoir eu à ce point raison. Voilà. Mais ce consensus scientifique, au fond, il ne s'enclenche pas. C'est bien désolant quand on est universitaire et donc inévitablement emporté par quelque chose comme un esprit des Lumières, c'est-à-dire qui pense qu'on peut s'émanciper par le savoir. Mais là, ce savoir ne nous a pas émancipés. Il nous a, d'une certaine manière, enfermés. Peut-être aussi parce que dans la situation proprement française, où la statophobie entraînait la technophobie, on est resté, mais ça c'est une question que je voulais vous poser aussi, sur un slogan de sobriété, voire de décroissance, qui est insupportable, enfin, qui n'est pas vivable, qui ne peut pas, au fond, être désirable à un moment où, de toute façon, je ne dis pas que la technologie nous fait rêver, mais enfin, en tout cas, elle change notre vie. Donc, il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une alliance aussi entre de la sobriété et de la solution technique, d'une certaine manière. Je sais pas, et aussi de la concurrence entrepreneuriale, où la meilleure façon, effectivement, de mettre, comme vous l'avez dit fort bien, les entreprises devant leurs responsabilités écologiques, c'est de les mettre en concurrence et de leur faire honte.
C'est une très bonne question sur la technophobie. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a une défiance à l'égard de la technique en général, il y a une défiance à l'égard de la civilisation productiviste, notamment autour de celle de la voiture, avec un texte de Gors qui est extrêmement prémonitoire sur le piège que ça crée et le piège dans lequel nous sommes. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que les écologistes n'ont pas vu à quel point l'identité du pays se retrouvait aussi dans la fierté technique. Alors, on a pu le faire avec le train, mais même, c'est ce que j'ai souvent trouvé compliqué, les écolos, pour de bonnes raisons, sont contre le TGV jusqu'à Toulouse, sont contre le canal Seine-Nord, sont contre... Donc c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, vues de loin, pourraient dire le transport par bateau et le TGV, c'est écolo, et en fait, ça ne l'est pas. Mais le cœur du sujet, c'est le nucléaire. Alors là, je pense que les écologistes avaient aussi raison sur le nucléaire, au sens où aujourd'hui, en fait, ça, comme me l'a dit un homme qui était un des plus pro-nucléaires de ce pays, il a dit de toute façon, il n'a plus besoin des écolos maintenant, il se détruit tout seul le nucléaire. C'est trop cher, c'est trop lourd, c'est même plus une question de sûreté, et ce n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire que là, le discours actuel de relance du nucléaire, qui patouille un peu, hein, de toute façon, l'enjeu, il est dans les 15 prochaines années. Donc, dans les 15 prochaines années, on n'aura pas construit de paix, on sait déjà à peine le construire. Mais je pense qu'on n'a pas perçu à quel point il y avait une identité collective dont on est capable de faire ça. Et nous, on s'est constitué avec les grands corps, avec les ingénieurs, avec Gustave Eiffel, qui faisait des trucs de dingue, qui servaient à rien, mais dont la chose qui représente la France, c'est quand même une prouesse technique qui sert à rien. Aka la tour Eiffel. Je veux dire, on vit avec ça, mais il faut se le dire. Donc, il y a quand même quelque chose de cette nature. Mais moi, maintenant, j'explique ce qu'on a à faire avec la halle de la gare d'Austerlitz. S'il y a des gens qui connaissent la gare d'Austerlitz, elle a une halle en fer et en verre qui a été construite autour de 1900, qui est la troisième plus grande halle de ce type. Mais dans les années 70, on a tout enlevé à l'intérieur et on a construit un parking à trois niveaux. Ensuite, avant, on l'avait percé pour faire passer un métro, mais quand on a construit le pont Charles de Gaulle, on a dit, on va péter la halle, et puis on va mettre une deux fois deux voies. Ça, c'est les années 90. Hein, c'est pas, Et heureusement, on ne l'a pas fait. Et là, il y a un projet qui est en cours, qui vise à enlever le parking et qui va réutiliser cette halle et puis construire à l'intérieur une structure qui rappelle le fait que ça a été un lieu de construction de dirigeables pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est fait avec le talent des architectes. Et donc, pendant très longtemps, les écologistes ont dit qu'il faut abandonner l'idée de progrès. Il y a un livre de Jean-Paul Besset qui dit comment ne plus être progressiste sans ne pas devenir réactionnaire. Ce qui intellectuellement est très intéressant. Mais c'est vrai que quand on est contre le progrès, contre la croissance, c'est vrai, c'est intéressant. Je comprends l'idée du mot obus, sauf que ce que ça fait, un mot obus, c'est que ça fait que les gens ils n'aiment pas se prendre un obus dans la gueule. Et du coup, c'est le même débat qu'à l'époque, pour le coup, de Bérégovoy. Les gens étaient pour le franc fort. Pourquoi ? Parce que c'est mieux fort que faible. Économiquement, franchement, il y avait un grand débat sur le sujet. Mais spontanément, on est plus pour les trucs forts. On est plus pour les trucs qui montent que pour les trucs qui descendent. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que là, je pense que les écolos n'ont pas compris que c'est contre-intuitif dans plein de domaines. Et notamment, le rapport à la voiture. Gorce l'a très bien documenté, sauf qu'aujourd'hui, pour des tas de gens, c'est à la fois un statut social, un but et une nécessité. Et donc, la solution qui consiste à dire juste on va augmenter le prix de l'essence et les gens vont moins l'utiliser, ils le vivent comme une privation très très forte. Et je le dis, j'en ai fait partie, et moi j'étais une grande promotrice de ça, notre grand projet, c'était la fiscalité verte. Donc en fait, on était des génies planétaires qui disions « Venez, votez pour nous, on va faire des impôts écolos. » Et intellectuellement, et on dit ça à Oxfam, on explique à quel point il faut, si on veut engager la transition, verdir, c'est-à-dire mettre plus exactement un impact à toutes les activités climaticides, un impact fiscal négatif. Mais quand on le dit comme ça, comme un drapeau, c'est très compliqué. Et ensuite, pour répondre sur comment faire, d'abord, il faut se dire que la politique publique, c'est trois actions. C'est la fiscalité, la norme, la loi, le règlement, et la dépense publique. Et il faut que ces trois-là soient alignés. Si on fait juste la fiscalité, c'est ce que je dis sur la taxe carbone, et donc on fait les gilets jaunes. À l'inverse, il y a des études britanniques là, qui ont montré que pour engager la transition, notamment écologique, et changer les comportements, ce qui n'est pas suffisant, hein, Carbone 4 a dit, les trois quarts de ce qu'on a besoin de faire, c'est des politiques publiques. Il y a trois moyens de faire, incitatif, punitif et normatif. Spontanément, on se dit, le truc qui marche le plus, c'est incitatif. Vous avez des bons comportements, on vous récompense. Eh bien, pas du tout. Ce qui marche le mieux, c'est le normatif. Pourquoi ? Parce que l'espèce humaine, qui n'a pas beaucoup de compétences biologiques, on ne sait pas grimper aux arbres, on ne sait pas creuser des terriers, on n'a pas de carapace, on ne court pas très vite, on ne sait pas faire grand-chose, hein, en vrai. On a une qualité biologique, c'est qu'on sait marcher très longtemps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on marche beaucoup moins, alors que notre corps est fait pour marcher très longtemps. C'est comme ça qu'on épuisait les proies. Et une deuxième chose, c'est une capacité à la coopération très grande. C'est ça ce qu'on sait faire. C'est qu'on sait beaucoup plus faire des trucs à trois que tout seul. Et enfin, on a une capacité exceptionnelle à l'adaptation sous contrainte. On est une espèce qui peut vivre du pôle Nord jusqu'au milieu du Tchad. C'est le même corps, hein, mais il peut supporter des très grandes chaleurs sèches, pas des chaleurs humides, et il peut supporter d'avoir très froid. Et il peut manger du poisson et du phoque ou manger du mil. Et enfin, on est une espèce qui a une très grande capacité à l'adaptation. Il y a la fourmi truc-muche, elle peut vivre dans cet espace-là. D'ailleurs, c'est pour ça que les écolos les défendent. Il y a des animaux, le grand tétras ou le petit tétras, il a un biotope. Et si les buissons poussent trop haut parce qu'ils sont plus pâturés, il n'y a plus de petit tétras. Nous, on supporte les petits buissons, les grands buissons, pas de buissons du tout. Et donc, il faut créer de la norme. Parce que quand on a de la norme, on est très fort pour s'adapter. Et ça, vous réfléchissez. Et pourquoi il faut créer de la norme ? Parce qu'à l'inverse, on ne sait pas s'auto-limiter. Et je pense que des gens m'ont déjà entendu, parce que c'est mon exemple fétiche, et je m'arrête avec ça. Je ne parle pas du mariage sur la norme qu'on a créée pour changer nos comportements, parce que ça vexe des gens. Mais la ceinture de sécurité, c'est l'histoire la plus jolie qui existe. Quand Volvo invente la ceinture de sécurité 3 points, ils sont tellement contents d'eux, les ingénieurs. Un geste, un truc pas très cher, qui fait diminuer la mortalité de manière drastique, qu'ils ne déposent pas de brevet. Ils disent à tous les constructeurs, allez-y, regardez comment ça marche, c'est trop génial. Les gens le mettent en option, les constructeurs le mettent en option, il faut choisir et payer. Évidemment, les gens ne prennent pas l'option. Donc ensuite, on dit, on va rendre ça obligatoire à l'installation. On l'installe. Les gens ne la bouclent pas, la ceinture. D'ailleurs, quand on rend la ceinture obligatoire, les chauffeurs de taxi obtiennent une dérogation pour ne pas avoir à porter la ceinture de sécurité. Ça sert à quoi, la ceinture de sécurité ? À sauver la vie
du mec ou de la nana qui met la ceinture de sécurité. Mais pour que nous, les humains, on fasse un truc qui nous sauve notre propre vie, il faut qu'on soit obligé, sous peine d'amende, et de perdre des points. Une fois qu'on a compris ça, on dit « Ok, c'est comme ça qu'on vit. On a besoin de ça. » Bah, très bien. Bah, organisons cet espace normatif qui doit être juste. Et c'est là où la clé est essentielle. C'est que quand on dit qu'il faut faire changer les comportements, on ne doit pas pouvoir s'exonérer de ce changement par l'argent. Si on dit, en fait, vous prenez moins l'avion, mais que les jets privés continuent d'exister, c'est insupportable. Et donc la norme, elle implique la justice. Et si tout le monde est au même point, alors c'est beaucoup plus supportable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend souvent, et c'est ce qu'on entend sur les politiques, là. C'est pour ça qu'il y a une telle hargne sur le fait qu'ils ont 3 mois d'indemnité, même quand ils ont travaillé juste la nuit. Alors qu'en vrai, 3 mois d'indemnité pour un ministre, s'il travaille dans le privé avant, c'est même pas, ça n'a rien à voir avec le chômage, donc ce n'est pas du tout juste, etc. Mais ça devient insupportable parce que ça devient injuste. Il y a une appétence à une forme d'égalitarisme qui est très forte. Donc je pense que si on réussit à mêler cette coalition et puis une dimension normative acceptée parce qu'elle sera juste et qu'elle s'appliquera à tout le monde, de dire vous débranchez votre box, mais en face de vous toute la nuit vous avez une publicité lumineuse, ça peut pas marcher. Et tout est comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à faire ça et à accepter la réconciliation avec la fierté technique et la fierté de nos ingénieurs. Et c'est d'ailleurs un des gros drames qu'on avait avec le nucléaire, c'est que quand vous êtes un polytechnicien, c'est quand même beaucoup plus excitant de faire une sorte de grosse bouilloire radioactive qui peut tuer tout le monde, plutôt que d'essayer de maximiser la pénétration dans l'air des pales d'éoliennes. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit qu'il faut slow down avec le nucléaire. D'abord, là, maintenant, il faut se détendre, même s'il y avait des écologistes à 51% de l'Assemblée nationale, personne n'arrêterait les centrales demain, donc on peut le dire. On ne va pas le faire. S'il y avait une présidente écolo, là, elle ne fermerait pas les centrales nucléaires demain. C'est comme ça. Elle n'en construirait pas de nouvelles, mais d'ailleurs, personne n'en construit de nouvelles. En revanche, il ne faut pas s'arc-bouter sur un certain nombre de choses et réussir à dire qu'on peut être fier de certaines réalisations. C'est vrai qu'il y a une aversion à pouvoir être fier de certains succès techniques qui font partie, pour le coup, du patrimoine immatériel de la société française. Et ça, peut-être que là aussi, il y a une capacité à faire les choses, mais si un jour, on réussit d'autres succès, enfin, il ne faut pas s'interdire du progrès technique pour réparer les erreurs de ce qu'on a fait au nom du progrès. Ceci, avant.
Voilà, merci beaucoup, parce qu'il faut qu'on s'était engagé à laisser la parole à la salle. Donc, voilà. Donc, je pense, malheureusement, on a plus beaucoup de temps, donc ce qui serait super, c'est peut-être de prendre plusieurs questions, voilà, une volée de questions, et puis voilà, vous nous direz sur quoi vous pouvez ou souhaitez réagir. N'hésitez pas à lever la main, à vous faire connaître si vous avez une question.
Bonsoir. Vous nous avez parlé du mot compter et du poids des mots. Alors, j'aimerais savoir, selon vous, quel est le rapport, quel est le sens à donner entre numératie et littératie ? Enfin, je précise, et étant un rapport d'addition, de simultanéité, de contraste ou d'opposition, comme vous êtes quatre.
J'ai pas compris.
Ok, on va prendre une deuxième question, ça va laisser à nos intervenants le temps de réfléchir.
Alors, n'hésitez pas à vous manifester, parce qu'on pendant.
Merci. Je ne sais pas trop comment prendre les choses, mais j'ai été très touchée par ce qu'a dit Monsieur Boucheron, c'est-à-dire par rapport à cet autobus et le déni en général dans la politique, pas seulement dans ce qu'on n'aime pas, hein, puisque Madame Duflo, vous avez quand même fait part des erreurs qu'ont pu faire effectivement une certaine génération dont je fais partie. Mais justement, Monsieur Boucheron nous amène à penser, et qu'est-ce que voit ceux qui ont envie de tuer, hein, parce qu'en gros, si j'ai bien compris, c'est ça, que nous ne verrions pas. Mais alors justement, si nous, on ne le voit pas, là, c'est grave, hein, parce qu'on peut tous s'entretuer, hein, très facilement, puisqu'on a déjà deux énormes guerres sur le dos et des centaines de millions de morts. Alors, moi, je suis psychologue, Et effectivement, je suis très disciple d'un grand monsieur qui est du Sud aussi, que moi j'ai toujours dans ma tête associé à monsieur Dufy, qui est René Caes, qui a travaillé beaucoup sur les groupes et qui a fait des textes tout à fait intéressants sur l'idéologie d'un point de vue psychologique, tout en étant aussi un homme, je pense, comme nous tous, un peu de gauche, comme on dit, parce qu'on ne sait plus très bien comment penser les choses. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que tant qu'on ne travaille pas profondément la gauche sur ce déni qu'il y a en politique, de ne pas penser qu'effectivement la haine de l'autre, elle vient aussi d'une insécurité profonde. C'est que quand on a peur de s'effondrer, soit on a le délire comme possibilité, on a la psychose, on a tout un tas de choses, on a le meurtre, mais on a aussi des angoisses énormes, hein, de je sais pas quoi, de mourir, de perdre sa foi chrétienne, etc., sa gauche merveilleuse. Oui, mais c'est important parce qu'on ne peut pas seulement, avec des yaourts qu'on va manger et des gentilles paroles avec les autres, non, mais je le dis parce que c'est d'accord, bon, bah c'est effectivement introduire aussi cette réflexion sur que dans l'idéologie, il n'y a pas que de la bagarre, il y a aussi comment comprendre la peur des autres, la peur de s'effondrer, de perdre les cadres qui sont en train de s'effondrer et de faire ce travail, effectivement, de qui est responsable, comment, pourquoi et quelles sont les duplicités, les complicités politiques et autres qui fait qu'on n'arrive pas à dénoncer autrement cette gravité de cette crainte d'effondrement. Voilà.
Oui, oui, moi je vais être très rapide, c'est juste, je voudrais poser une question en particulier à Cécile Duflot, donc vous avez parlé que l'écologie, son tort, c'est d'avoir eu raison avant tout le monde, et puis finalement, aujourd'hui, de faire 5% aux élections, et aujourd'hui, il y a un terme qui m'horripile, et avoir votre avis sur ce qu'on, quand on parle d'écologie punitive, quoi. Parce que c'est un peu la tarte à la crème, vous êtes écolo, et finalement, du coup, c'est pas pour le bien commun. Quel est votre avis sur le sujet ?
Merci. Je pense qu'on va commencer à donner la parole effectivement à nos intervenants. Peut-être Cécile tout de suite sur cette dernière question.
Je vais répondre très rapidement. Il y a eu plein de méthodes qui ont été choisies pour pouvoir taper sur les écolos. Et dont certaines qui utilisaient des brèches, c'est toujours des brèches qui existaient. Donc c'est vrai, quand je dis qu'il y a des solutions qui sont normatives et qu'il faut des changements de politique publique, on peut vite dire que c'est une punition. Moi, je crois que l'épidémie de cancer, c'est une punition plus grave. Mais ce terme-là, celle qui l'a popularisé de façon étonnante, c'est Ségolène Royal. Donc pour se positionner différemment. Donc moi, vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'épuiser. Enfin, faut pas s'accrocher sur des termes qui sont trop compliqués, qui peuvent être intéressants dans le débat intellectuel, mais dans embarquer, puisque c'est le sujet de ce soir, dans embarquer la société, il ne faut pas essayer de faire adhérer les gens à la décroissance, parce que c'est trop long et trop compliqué, il faut faire des choses ensemble, et il ne faut pas s'accrocher sur des thèmes ou sur des bagarres sur des termes, il faut essayer de se doter d'un horizon qui donne envie. Et un horizon qui donne envie, c'est un horizon où on va aller mieux. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, quand je parlais d'adaptation sous contrainte, etc., on sait que ça peut être compliqué de traverser ces étapes-là. Mais si on dit, là, il va falloir qu'on traverse un gros orage, mais dans 5 minutes, il y a un abri, tout le monde met son caouet, serre les épaules, avance, ferme à moitié les yeux pour aller vers l'abri. Et c'est ça, en gros, le chemin qu'on dit. C'est qu'on va serrer un peu les dents, ça ne va pas forcément être facile, mais on va quelque part. Et aujourd'hui, on ne raconte pas du tout cette histoire de vers où on va. On a beaucoup dit, il faut faire ça, sinon c'est la catastrophe. C'est pas très mobilisant. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on trace. Et donc la réponse, elle est plutôt dans l'action que dans la bagarre sur les termes. Parce qu'effectivement, l'absence d'écologie est punitive. Ça, c'est la phrase que les écologistes ont répondu des milliers, des centaines de milliers de fois. Et ça marche pas hyper bien. Donc il faut essayer de renverser la logique.
Peut-être Patrick sur la question, ou soit celle-ci ou la question précédente, peut-être sur les mécanismes psychologiques, la peur.
Oui, mais de toute façon, tout se recoupe maintenant de notre conversation. On retrouve sinon des mots d'ordre, du moins des attitudes dont on sait que finalement elles peuvent nous rassembler, c'est-à-dire agir localement, penser globalement, mais aussi à partir de nos expériences, apprendre. Mais ça m'a beaucoup frappé à vous écouter l'une et l'autre, combien depuis deux positions différentes hein, de responsables politiques, puis associatives ou de chercheuses, vous cherchez justement par cette hygiène de l'inquiétude qui me semble être vraiment le plus précieux de ce qu'on peut espérer de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, c'est-à-dire apprendre à se mettre à la place de, voir d'un autre œil, à Gaza, à Ramallah, ou après tout, pourquoi pas, dans un bureau d'études d'un ingénieur du nucléaire, faire l'effort de voir ce qu'il voit. Et ça, d'une certaine manière, les politiques le font. Plus qu'on le dit, en vérité, parce que tout dans leur pratique les amène quand même. Puis se faire engueuler du matin au soir, ça finit aussi par faire produire un effondrement psychologique de temps en temps, mais aussi parfois quand même un progrès cognitif. Je pense que c'est ça, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a cette idée, d'ailleurs, la question... colonial ou post-colonial nous y invite. C'est fondamentalement cette capacité qui est quand même aujourd'hui totalement anesthésiée d'empathie. C'est-à-dire se mettre à la place de regarder différemment d'un autre point de vue le monde.
Oui, et c'est juste pour ajouter qu'il y a une tradition assez longue des gens qui pensent c'est quoi la solidarité? C'est quelque chose qui surpasse, qui est d'ailleurs de l'empathie. Donc on n'a pas besoin de la reconnaissance pour agir politiquement. Je crois que ça, c'est vraiment important de souligner. Ça revient à ce que vous avez dit avec cette question psychologique qui est super importante. Mais c'est aussi important, on a parlé des différentes échelles, des discours, des écolos. En fait, moi, j'ai aucune idée ce que veut dire écolo, parce que c'est tellement, et je crois que c'est utile d'avoir cette manque de compréhension, parce que il y a tellement des champs, en fait. Moi, je ne me reconnais pas dans le écolo, je sais pas. Donc, c'est tellement divers, mais ici, on parle du cadre politique ici en France. On n'a pas, vous avez évoqué la question postcoloniale, coloniale. Bon, on n'a pas parlé de ce qui est les territoires qui sont censés être partie de la France, les Outre-mer, Guyane, XYZ. Il y a les territoires partout dans le monde dans lesquels les narrations de l'écologie, les narrations principales cachent la violence qui subissent les gens, les populations là, les violences écologiques, mais les violences de la santé, l'éducation politique, de la représentation en général. On ne parle pas de ça. Donc, si on parle de même la question de l'empathie, de la reconnaissance, ces gens-là sont censés être français. Désolée. Mais donc, on doit parler là, on doit commencer là avec cette reconnaissance de ce qui se passe dans la France mondiale pour revenir à cette question. Mais oui, voilà.
Alors, je crois que nous arrivons à la fin de cet échange. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et bien sûr, chez la CHEC, Patrick Boucheron et Cécile Duflot. Merci infiniment de votre présence, d'avoir accepté de débattre en ouverture des rencontres de Cluny qui se poursuivent jusqu'à dimanche avec un programme très très riche. Donc on espère vous retrouver les jours prochains ici même à l'ENSAM pour beaucoup de tables rondes, beaucoup de discussions, beaucoup de formats. Merci encore. La suite avec une dégustation et un concert. Merci.